en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean d'Ormesson, qui, après nous avoir accordé un entretien à l'occasion de la sortie de ses trois derniers ouvrages, Saveur du temps, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, C'est une chose étrange à la fin que le monde, publié chez Robert Laffont, et à nouveau aux éditions Héloïse d'Ormesson, le tout récent La Conversation, livre dont j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il constituait un régal de culture, d'intelligence, d'imagination et de style. Jean d'Ormesson, qui après nous avoir donc accordé ces trois entretiens, disponibles sur Canal Académie, a accepté de participer à notre série L'Essentiel. Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Jean d'Ormesson, le moment essentiel ?
Ah ben c'est amusant parce que, évidemment, je ne dirais pas qu'il y a eu un moment essentiel. Il y en a eu, je dirais, trois ou quatre. Alors, évidemment, l'entrée sous la coupole est tout de même un événement important.
73.
Je dirais que l'entrée au comité de lecture de Gallimard a été important pour moi. C'était une espèce de reconnaissance par le milieu littéraire. Naturellement, la réception de Marguerite Yourcenar à l'Académie, non pas tellement parce qu'il s'agissait de l'Académie, mais parce qu'il s'agissait d'un pas décisif à propos de l'entrée des femmes dans le monde moderne.
Et la fin d'un long combat que vous aviez mené.
Et ça a été un combat assez
Bonaparte
sérieux.
À Arcole.
Hein. Ah, oui, ça a été un combat que j'ai gagné. J'ai perdu des combats à l'Académie. Je voulais faire entrer Raymond Aron. Et je voulais faire entrer Aragon. Alors je peux raconter brièvement ce qui s'est passé avec Raymond Aron. Aron n'était pas très chaud pour entrer à l'Académie. C'était un homme merveilleux que j'admirais énormément, qui avait un caractère difficile, qui était très orgueilleux notamment, et l'idée du nombre de possibilités d'échecs lui paraissait insupportable.
Ainsi que les visites d'ailleurs, le principe des visites. Il n'aimait pas beaucoup.
Oui, et les visites, c'est terrible. Et un beau jour, il m'a dit, écoutez, il avait un peu vieilli, comme tout le monde, il m'a dit, écoutez, explorez ça, peut-être je viendrai, mais je veux que vous me fassiez un rapport sur l'état des lieux et les chances que j'ai. Et je suis revenu le voir en lui disant, il ne faut pas vous présenter. Il ne faut pas vous présenter pour 5 raisons. La première, il y avait encore à cette époque-là quelques antisémites à l'Académie. Il y avait quelques confrères juifs qui trouvaient que c'était suffisant, qu'il n'en fallait pas trop. Alors il avait contre lui les antisémites, peut-être, et les juifs de l'Académie. Il avait contre lui les anti-gaullistes. Il y avait encore des confrères qui avaient été marqués par l'Action française, par la droite traditionnelle. Il avait contre lui les gaullistes.
Ah bon ?
Il avait contre lui les gaullistes. Il y avait une histoire célèbre que m'avait racontée, c'est une histoire que j'aimais beaucoup, que m'avait racontée Maurice Schumann. Maurice Schumann est ministre de De Gaulle. Il n'était pas ministre des Affaires étrangères de De Gaulle. Il a été ministre des Affaires étrangères de Pompidou. Je crois qu'il était ministre des Affaires européennes, je crois. Et il fait signer un papier par le général de Gaulle, et pour faire la conversation, il lui dit « Mon général, est-ce que vous avez vu ce matin dans le Figaro l'article de Raymond Aron qui ne vous est pas très favorable ?» Et de Gaulle ne répond pas. Schumann prend son dossier, sort, et en sortant, il entend le général qui soliloque et qui dit « Aron, Aron, est-ce ce personnage qui est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro. » Donc les rapports étaient un peu difficiles et je croyais savoir que Maurice Schumann, que Perfit, que peut-être Maurice Druon n'était pas très chaud.
Ça en fait beaucoup.
Pour l'entrée de... Et je lui ai dit, ces quatre catégories, les antisémites, les juifs, les antigaullistes, les gaullistes, tout ça peut être surmonté. Mais il y a une catégorie qui est insurmontable, c'est ceux à qui vous avez fait comprendre un jour ou l'autre que vous étiez plus intelligent qu'eux. Et il ne s'est pas présenté, et je pense qu'il aurait été battu. Et une autre histoire, c'est un jour j'avais dîné avec Aragon, et Aragon m'avait dit, tu sais, il me tutoyait, mais je le voyais naturellement, il m'avait dit, tu sais, je suis snob. Et je lui avais dit, vous êtes snob, venez à l'Académie. Il ne m'avait pas dit non. Et je suis revenu vers mes confrères et j'ai dit, Aragon, nous pouvons avoir Aragon. Et on m'a répondu qu'il fasse ses visites et qu'il envoie sa lettre de candidature. Évidemment, il fallait déployer un tapis rouge, c'était le cas de le dire, se jeter à ses genoux et le supplier de venir. L'image de l'Académie aurait été modifiée s'il y avait eu. Alors ça, ce sont mes échecs. Je parle trop vite de mes échecs. Mais un moment important pour moi, ça a été le premier livre publié. Mmh. Je me rappelle ce bonheur de se voir publié. Ça a été un grand bonheur.
Oui, il y a eu toute une série de livres, d'ailleurs, avant que vous connaissiez la gloire. Hein. L'amour est un plaisir, du côté de chez Jean, Un amour pour rien, Revoir merci, Les usures de la mer. Et puis en 71, c'est la gloire de l'Empire.
Là, c'est là que les choses ont démarré.
Mais vous n'avez pas cité, vous n'avez pas pris comme date 1978, qui est quand même un tournant. C'est au plaisir de Dieu.
Ah.
C'est la rencontre entre vous et la France. Et vous devenez l'icône d'une certaine aristocratie, du rêve que les Français entretiennent à l'égard de l'aristocratie.
Vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait que deux chaînes. Il y a des choses qui vont étonner nos auditeurs les plus jeunes. Quand j'étais directeur du Figaro, d'accord, il y a longtemps, mais enfin, il n'y a pas tellement longtemps.
74.
Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de portable. Et quand on a porté au plaisir de Dieu quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Mazoyer, a porté à la télévision au plaisir de Dieu, pour incarner le grand-père, on avait pensé à Burt Lancaster. Et Burt Lancaster avait accepté, mais il avait demandé 5 fois, comme cachet, le budget total du film. Et le film durait 9 heures, c'était 6 fois 1 heure et demie, il n'y avait que 2 chaînes, et un des soirs, nous avons fait 78% des parts de marché.
C'est autant d'audience que le Guépard, en fait.
Oh, enfin, non, pas internationalement.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Jean d'Ormesson, sur votre domaine d'activité aujourd'hui et vos préoccupations personnelles actuellement, d'écrivain et d'intellectuel? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tarabuste le plus?
Oh, évidemment, une question qui est très difficile, c'est est-ce que nous sommes dans une période de décadence?
Ça vous taraude depuis longtemps, ça. Hein,
oui,
l'idée de la France. Pour vous, le clivage, c'est 1940, non?
Écoutez, Fumaroli a écrit des pages merveilleuses sur le règne du français, quand l'Europe parlait français. Et on voit bien quelles sont les dates. Je peux donner les dates. C'est 1539, si je ne me trompe pas, édit de Villers-Cotterêts. Qu'est-ce que dit l'édit de Villers-Cotterêts? C'est François Ier qui le promulgue. L'édit de Villers-Cotterêts dit que les actes publics, les actes de baptême, les donations, on dirait les actes des notaires, ne seront plus rédigés en latin mais en français. Et les deux grands créateurs de la langue française, il y a un précurseur qui est Malherbe, naturellement, enfin Malherbe vint, et les deux grands génies qui forgent la langue française en poésie et dans la prose, c'est Corneille et Pascal. Et en politique, c'est la date clé, 1648, si je ne me trompe pas, les traités de Westphalie. Les traités de Westphalie, qui sont des traités européens, sont rédigés en français. Eh bien, pendant toute la fin du XVIIe, tout le XVIIIe, tout le XIXe, tout le début du XXe siècle, le français règne, et on peut donner la date de la chute du français, on pourrait presque donner l'année, le mois, le jour et l'heure. C'est le 10 mai 40, quand Hitler attaque la France et que la France tombe en 11 jours. Et évidemment, elle a eu beaucoup de mal à se relever. La grandeur du général de Gaulle, c'est qu'il a relevé la France ou qu'il a donné la France
l'impression.
Le sentiment qu'elle était relevée, mais évidemment, sa place internationale était ébranlée.
Quant à vos préoccupations d'aujourd'hui, est-ce qu'il est exact, comme le disent certains de vos proches, que vous êtes plus intéressé par l'univers scientifique aujourd'hui, pratiquement plus intéressé par l'univers scientifique que par l'univers littéraire ? C'est vrai ou faux, ça ? C'est une confidence.
J'étais très très nul en sciences.
Ah, ça ne se voit pas dans votre avant-dernier livre.
J'ai beaucoup travaillé.
Ah bah, ça vous a réussi.
J'ai beaucoup travaillé. J'étais très nul en sciences au bac. Je crois qu'on dit le bac aujourd'hui. Oui, oui. On disait bachot de mon temps. Oui. Au bachot, il y avait une matière qui avait été introduite par le gouvernement de Vichy, qui était la cosmologie. Et comme ça avait été introduit par Vichy, je ne voulais pas l'étudier. Et j'ai eu deux. Au bac, j'ai eu deux. Mais j'ai été rattrapé parce que je suis tombé sur le Brésil en géographie. Et j'avais habité au Brésil pendant 3 ans comme enfant. Et j'avais divisé le Brésil en 3 parties. Et je me rappelle, c'était une examinatrice qui a eu l'imprudence de me dire « Quelle partie choisissez-vous ?» J'ai choisi la partie centrale. Elle m'a dit « Quelle partie choisissez-vous » Et de choix en choix, je suis descendu jusqu'à Rio de Janeiro. Je l'ai divisé en 3 parties. Elle m'a dit « Laquelle choisissez-vous » J'ai choisi Flamengo. J'habitais à Flamengo et je suis descendu jusqu'à la rue où j'habitais. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle a été obligée de me mettre 19. Ouais, ouais. Ça a rattrapé les deux de la cosmologie. Et depuis longtemps, depuis 20 ans, la cosmologie m'a absolument fasciné. De fil en aiguille, la physique mathématique m'a passionné. Je suis devenu très lié avec quelqu'un qui s'appelle Trinh Xuan Thuan, qui est un grand astronome franco-américano-vietnamien. Et même les mathématiques m'ont paru quelque chose d'extraordinaire. Je dois vous dire que je n'écrivais pas comme jeune homme aux écrivains. J'ai écrit un jour à Paul Valéry. Et Paul Valéry m'a dit « Venez me voir ». Et j'ai été le voir rue de Villejuste, qui est aujourd'hui la rue Paul Valéry. Et il m'a reçu, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et je lui ai dit « Je viens de renoncer à l'agrégation d'histoire ». Tous ceux qui ont lu Valéry savent les sentiments qu'il portait à l'histoire, il détestait l'histoire. Il s'est levé, il m'a pris dans ses bras, il a dit « Comme vous avez raison, l'histoire ne sert à rien, qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Et avec une orgueilleuse modestie, je lui ai dit « Je prépare l'agrégation de philosophie. » Il s'est laissé tomber sur son siège, il a pris sa tête entre les mains et il m'a dit « Mais c'est pire !» Il détestait la philosophie, il y a beaucoup de textes de lui qui expliquent ses sentiments. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et il m'a dit « Il faut faire des mathématiques ». Évidemment, Paul Valéry adorait les mathématiques.
Il faut voir quand même, et vous l'avez bien expliqué dans l'un de vos livres, le lien entre les mathématiques et la philosophie, à l'origine, il allait de soi.
À l'origine, il allait de soi. Et un homme comme Michel Serres, par exemple notre confrère, incarne très bien la rencontre du monde scientifique et du monde philosophique. Moi, je suis un amateur dans tous ces domaines.
Enfin. Donc, ces dernières années, on sent bien qu'il s'agisse, chez vous, d'une préoccupation dominante, relayée d'ailleurs par une préoccupation métaphysique essentielle. Mais il y a une question que vous laissez un peu de côté, qui est celle du mal et celle de la souffrance.
J'ai fait l'impasse sur le mal, ça m'a paru trop difficile. C'est un problème. Vous me direz que le problème du temps est un problème difficile aussi.
D'autant que ça vous donne le vertige, à vous, le temps, parce que vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il pourrait y avoir rien.
Voilà. Est-ce qu'il pourrait.
Rien. Alors ça, mais, c'est quand même impressionnant, le rien.
Mais je suis partisan de saint Augustin qui explique qu'avant la création du monde, Dieu crée le temps. En même temps qu'il crée le monde. Et moi, je ne suis pas très qualifié pour dire ça, mais je pense que le Big Bang, tous les savants sont d'accord pour dire que le Big Bang a créé l'espace.
13 millions d'années, oui.
A créé l'espace.
Mais il n'est pas certain qu'il ait créé le temps.
Alors, il y a des savants qui soutiennent, comme Prigogine, en partie, il est un peu revenu dans un dernier livre là-dessus, il soutenait que le Big Bang s'est produit dans le temps. Je suis persuadé que le Big Bang a créé le temps, qu'on ne peut pas dire avant le Big Bang, car il n'y avait pas d'avant, puisqu'il n'y avait pas de temps.
Et pas de Dieu non plus, non ?
Ça, c'est une autre question. Dieu est hors du temps. En tout cas, si Dieu existe, il est hors du temps.
Mais la souffrance et le mal, est-ce que c'est quelque chose
et
qui
alors,
vous...
donc, c'est des problèmes très difficiles, mais le problème du mal, c'est presque incompréhensible. Et évidemment, le christianisme donne un peu une réponse au mal que nous avons connu. Vous savez qu'une des formules, quand on a découvert les camps de concentration nazis, c'était « Est-ce qu'on peut encore parler de Dieu après Auschwitz ?» Et peut-être que... Justement, c'est parce qu'il y a du mal qu'on peut parler de Dieu. Là, c'est probablement une des forces du christianisme.
Oui. Dieu antidote, en quelque sorte.
Dieu antidote et la liberté des hommes, laissant le choix aux hommes de faire du mal.
Jean d'Ormesson, ceci est vrai pour le mal, mais pour la souffrance. La souffrance, elle est dans l'ordre naturel depuis les origines. L'ordre animal est marqué par la souffrance. Un lion bouffe une antilope. C'est dans l'ordre naturel.
Alors, naturellement,
ça n'est pas encore plus inquiétant, ça, que la souffrance soit dans l'ordre naturel des choses.
Il y a peut-être de la souffrance, mais il n'y a pas de mal avant l'homme. Le mal naît avec l'homme.
Mais l'interrogation de la souffrance...
Même que le mal naît avec la pensée.
Pensée de l'homme, ouais.
Avant la pensée, il n'y a pas de mal. L'antilope est bouffée par le... Je ne sais pas s'il y avait des lions à cette époque-là, ni des antilopes. Mais enfin, le diplodocus...
Bouffait quelque chose.
Bouffe quelque chose, oui, oui. Mais il n'y a absolument pas l'ombre de mal. Mais il peut y avoir de la souffrance.
C'est quand même une
Est-ce
question.
Que les animaux souffrent ? Oui, probablement, les animaux souffrent.
Comment un Dieu infiniment bon a-t-il pu concevoir un monde dans lequel les animaux souffrent ? Question
eh bien,
primaire. Hein.
La réponse, évidemment, la réponse chrétienne serait « Mais il a fait souffrir son propre fils ». Là, on arrive quand même à quelque chose d'assez cohérent dans la religion chrétienne.
La grande force.
Le Christ sur la croix dit « Eli, Eli, sabachthani ».
C'est ça, c'est une merveilleuse leçon de la force de la religion chrétienne et ce qui apparaît sa grande faiblesse, c'est-à-dire la croix.
Évidemment, c'est ce qu'elle apporte. Qu'est-ce qu'apporte la religion chrétienne ? J'ai longtemps pensé qu'elle apportait le pardon. Et on m'a assuré qu'il y avait du pardon dans les religions antiques, qu'il y avait le pardon dans la religion juive. C'est l'amour et la souffrance qu'apporte le christianisme. Le Fils de Dieu qui se fait crucifier, c'est quelque chose. Ça,
vous
savez, c'est quelque chose.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, élargissons les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Quelle est, Jean d'Ormesson, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos ? Votre regard sur le monde d'aujourd'hui ?
D'abord, je vais vous dire que je fais passer très peu d'idées sur le monde d'aujourd'hui, vous savez.
Vous voulez que je vous rappelle quelques-unes des idées que vous faites passer ? Je peux vous le dire, hein ?
Oui, dites-moi, mais je les fais passer toujours avec une forme d'ironie.
Oui, toujours, toujours, certes.
Oui,
certes.
Comme, dites-moi.
Par exemple, ce regret que vous semblez avoir que nous ayons perdu le sens du temps et de la mise en perspective de nos vies par rapport à l'histoire.
Oui, c'est
alors
vrai.
Que vous considérez que c'est quelque chose d'essentiel, cette
c'est
mise
vrai.
En perspective. Qu'à la limite, il n'y a pas de république s'il n'y a pas de mise en perspective.
Oui, bien sûr. Je dois vous dire que je suis un peu inquiet du traitement de l'histoire à l'école. Et vous savez, je me rappelle très bien quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je me méfiais énormément des vieillards de 80 ans, souvent académiciens, qui donnaient leur avis sur le monde et qui trouvaient que le monde s'était épatant du temps de leur jeunesse et que c'était devenu atroce maintenant qu'ils étaient vieux. Et je me suis dit, je ne serai pas comme ça.
Et vous ne l'êtes pas.
Et je ne serai
c'est
pas
d'ailleurs
comme ça.
Pour ça que les
Mais
jeunes vous aiment bien.
Mais c'est vrai que le fait que l'histoire n'est presque plus enseignée dans certaines branches du cursus scolaire me paraît affolant. J'ai entendu dans des jeux de télévision la question Jules Ferry. Était-il ministre au XVIIIe siècle, au XIXe siècle ou au XXe siècle ? La réponse n'a pas été donnée. J'ai entendu Saint-Louis, François Ier, Louis XI, Louis XIV, quel est l'ordre chronologique ? La réponse n'a pas été donnée. Il y a une espèce d'absence de mise en perspective qui me paraît redoutable Et l'abandon de la chronologie, notamment en histoire, me paraît une erreur fondamentale.
Alors sur l'histoire, il y a quelque chose que vous avez dit qui semble assez étonnant quand même. Quand vous avez écrit que les plus forts finissent toujours par perdre. Vous dites le sens de l'histoire est un mystère, mais il y a une chose que je sais, les plus forts finissent toujours par perdre.
Oui.
C'est étonnant ça.
C'est très chrétien,
vous savez. Oui, oui.
C'est très chrétien.
Mais vous êtes un agnostique qui est possédé par l'envie de croire.
Évidemment, je suis un peu bizarre parce que suis un homme de droite
complexe.
Qui croit beaucoup à l'égalité des gens, à l'égalité des hommes.
C'est la richesse de votre formation, c'est votre famille, c'est la complémentarité des différences, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hein. Je suis un gaulliste qui est très européen. Vous savez, j'ai été élevé dans la religion catholique et les gens qui disent « j'ai été élevé dans la religion catholique », c'est en général qu'ils l'ont quitté. Moi, je n'ai pas quitté la religion catholique. Je mourrai dans la religion catholique si l'Église veut de moi.
Oui. Mais tout c'est en ayant beaucoup d'incertitudes, quand même.
Ah, comment Est-ce que Dieu existe? C'est une question. Tout ce que je peux vous dire, en vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas.
S'il existe, en tous les cas, il doit adorer vos interrogations.
Parce que... J'espère. Oui, j'espère.
Vous parlez d'une folle espérance. Une folle espérance.
Une folle espérance.
C'est une forme de croyance, la folle espérance.
Oui, c'est même pas une croyance, c'est une espérance en la folle espérance.
C'est ça, c'est ça.
Il y a deux formules que j'ai beaucoup aimées. L'une est une formule juive. Vous savez, les rabbins sont quelquefois très hardis dans leurs... Et il y a deux rabbins qui discutent ensemble et l'un dit à l'autre, ce qui est le plus important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et l'autre formule est tout à fait chrétienne. C'est un père de l'Église qui a dit « Ma foi est la forme de mon espérance. » C'est très beau. « Ma foi est la forme de mon espérance. »
Quatrième question récurrente de notre série « L'Essentiel ». Pour vous, Jean d'Ormesson, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps? Là, vous avez le choix.
Hein. Notre temps est marqué au sceau de l'imposture.
Ah oui.
Vous savez, l'imposture a toujours régné.
Oui, j'allais vous dire, quand même.
Elle a été formidable dans les époques que nous admirons tellement, en Grèce, en Égypte, à Rome, en Chine ancienne, l'imposture est partout. Mais chez nous, elle est multipliée par les moyens de communication de masse. Nous vivons dans l'imposture. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'une grande partie de l'art moderne ne soit pas de l'imposture.
Et il y a à l'Académie, à côté de vous, quelqu'un qui en est persuadé, à tous les cas.
C'est Jean-Claire. J'ai deux amis qui en sont persuadés.
Et Marc Fumaroli également, les deux.
Voilà, Marc Fumaroli et Jean-Claire. Je pousse ça si loin que souvent, je me dis, je dénonce beaucoup l'imposture de notre temps et l'hypocrisie de notre temps, mais est-ce que je ne suis pas moi-même une forme d'imposture?
C'est-à-dire,
quelquefois, je me dis, tout ça, c'est du pipeau, c'est du pipeau.
Qu'est-ce qui serait du pipeau dans ce que vous représentez?
Vous savez, je ne suis pas du tout persuadé que les jeunes gens, dans 30 ans, sauront encore que je suis. Je ne suis pas sûr.
En tous les cas, pour l'instant, vous avez beaucoup de succès auprès des jeunes générations.
Vous
êtes l'écrivain vivant français le plus populaire auprès des jeunes.
Alors,
quand même, à votre âge.
C'est vrai.
C'est extraordinaire.
Et non seulement, mais j'ai accumulé les désavantages dans le monde littéraire. J'ai été élevé dans un château. J'appartiens à une famille qui a marqué. Tout ça, c'est très mauvais. J'appartiens à l'Académie, c'est exécrable. Pour la littérature,
vous avez... Et pour le Nobel.
Et pour le Nobel, c'est un désastre. Vous n'avez qu'à penser à Gide, à Malraux. Je me rappelle très bien mon oncle Vladimir, qui était académicien, qui avait essayé d'attirer Malraux. Et Malraux lui avait dit, mon médecin ne me le conseille pas. Et je me rappelle mon oncle disant, je crois que le médecin de Malraux s'appelle le docteur Nobel. Gide, Sartre, c'est évident. Directeur du Figaro, c'est catastrophique pour les jeunes... Et ce que j'ai le plus entendu dans ma vie, c'est des ravissantes jeunes filles qui venaient me voir et qui disaient « Ma mère vous admire tellement. » Et puis c'est devenu « Ma grand-mère vous admire tellement. » Et je racontais cette histoire un jour chez Gallimard, quand est entrée une ravissante jeune fille de 18 ans qui était stagiaire, qui s'appelait Ségolène. Et rougissant jusqu'au front, elle m'a dit « Je crois que vous êtes un ami de mon arrière-grand-mère. » C'était tout à fait vrai d'ailleurs. Et évidemment, ça a changé. Ça a changé peut-être à cause d'un livre que j'ai écrit qui s'appelait Casimir amène la grande vie, peut-être à cause de Julien Doré qui a...
Oui, ils sont tatoués sur son épaule. Est-ce que je peux émettre une hypothèse beaucoup plus simple ? C'est que lorsque vous passez à la télévision, vous êtes l'incarnation d'une forme de bonheur et vous ne portez jamais de jugement et de critique. Vous leur dites, vous êtes dans un monde qui peut être merveilleux, profitez-en, jouissez, existez. Et ils se disent, tiens, voilà, c'est pas le vieux Barbon, c'est un type marrant, intelligent, drôle, qui nous écoute, il nous accepte.
Voilà, et puis Gérard, parce que ça dépasse cela beaucoup. Il y a quelqu'un qui s'appelle Fonel, qui,
Oui, et puis dans Elle aussi,
Dans Elle, courrier électronique.
Enfin, bon, ça marche, quoi.
Où Inès de la Fressange et moi faisons des galipettes à l'Académie.
Bon, c'est pas la pire que vous puissiez faire.
C'est pas la pire, non.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est, Jean d'Ormesson, l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Écoutez, moi j'ai eu deux grands bonheurs dans la vie. La chute d'Hitler et la chute du mur de Berlin.
En 89 donc.
89. J'ai déjà prononcé le nom d'Aron. Aron était pessimiste. Aron luttait contre le communisme. Il avait été le premier à dénoncer le communisme stalinien.
Beaucoup de courage.
Et avec beaucoup de courage. Il avait été un peu vilipendé à cause de ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Mais à l'époque, non. Et il aurait été très étonné, très heureux. Mais il est mort en 81 ou 3, entre 81 et 83. Il est mort 6 ans avant le mur de Berlin. Et il aurait été très heureux, mais très stupéfait. Il ne prévoyait pas ça. Et il y a des gens qui soutiennent que Mitterrand l'avait prévu, la chute du mur de Berlin. Il l'avait peut-être prévu, mais dans 15 ans ou 30 ans,
De Gaulle... Quand c'est arrivé, il était un peu surpris quand même.
Il avait été très surpris. De Gaulle aussi avait dit « La Russie boira le communisme comme un buvard ». Il l'avait vu.
Mais n'avez-vous pas N'avez-vous pas l'impression que nous, occidentaux, nous avons échoué dans l'après-mur de Berlin ? C'est-à-dire que là où on nous attendait la culture, nous sommes arrivés avec l'argent.
On a fait le... C'est un succès, d'ailleurs. Vous savez, l'euro est un succès, mais Fukuyama annonce la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas terminée. Et évidemment, nous aurions mieux fait de faire une Europe plus resserrée. L'erreur, ça a été de prendre 29 pays ou 27 pays, je ne sais pas combien nous sommes. Et il fallait faire d'abord une Europe très solide avec 5 ou 6 pays, avec une autorité politique et une politique culturelle.
Alors à propos d'Europe, justement, il y a près d'un an et demi maintenant, vous écriviez dans l'une de vos chroniques, l'origine de drame que nous venons de vivre, donc la crise de 2010, est que le succès de l'euro, par définition, était purement économique, il n'était ni intellectuel ni moral, il n'était pas politique. Donc la refondation de l'Europe, aujourd'hui vous pourriez dire exactement la même chose.
Je crois que
ça n'a pas changé.
Tout le monde serait d'accord aujourd'hui, je pense.
Oui, mais à 27, à 17, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et d'ailleurs, je vais même plus loin, vous savez, je dirais volontiers que la crise que nous vivons, et nous roulons évidemment de crise en crise. On a expliqué que c'était une crise économique, oui, bien sûr. Que c'était d'abord une crise financière, oui, bien sûr. Une crise économique, une crise sociale. Je crois profondément que c'est une crise intellectuelle et morale, et que c'est une crise de civilisation. Ça, je le crois très fort.
Sans croire au choc des civilisations, vous n'êtes pas...
Je ne crois pas du tout au choc des civilisations, pas du tout. Mais je crois que c'est une crise morale, oui, et intellectuelle.
Alors, votre refus de croire au choc des civilisations, est-ce que ça tient au fait que vous soyez persuadé qu'il y a une chaîne humaine qui fait que... Je reprends l'une de vos formules, qui est quand même tout à fait étonnante. Hein. C'est Jean d'Ormesson qui écrit ça. « Nous sommes tous des Africains modifiés par le temps ».
Oui, c'est vrai. Nous sommes des Africains modifiés par le temps.
Et d'ailleurs, pour vous, l'avenir appartient à l'Afrique noire.
Oui, ça peut être très lointain, mais ça recoupe. Vous savez, il y a un tout petit peu de cohérence dans ce que je dis. La chute des puissants, l'Europe a été très très puissante, elle tombera. L'Amérique, ça a été beaucoup plus vite que je ne croyais. Au moment où Servan Schreiber écrivait Le défi américain, je lui disais, mais tu sais, l'Amérique, elle va tomber aussi. Il me prenait pour un fou. Eh bien, nous voyons déjà les débuts du déclin américain. Et la Chine, Elle ne durera pas très longtemps non plus, vous savez. Elle est très puissante, elle va connaître des problèmes très difficiles. Et l'Afrique, son tour viendra, j'en suis sûr. Je suis sûr que son tour viendra. Et alors, en plus, sur le choc des civilisations, je dois vous dire que je suis de ceux qui pensent, quand je dis ça, je reçois des lettres quelquefois d'insultes nombreuses, je pense que l'islam est une très grande et très belle religion. Naturellement, je suis contre l'intégrisme islamique, mais je ne suis pas contre l'islam, je suis contre tous les intégrismes. Il y a aussi un intégrisme catholique, il y a un intégrisme financier, il y a un intégrisme national.
Peur de la complexité, la peur du temps qui passe. Sûr. Hitler voulait créer un empire de 1000 ans, il voulait arrêter l'histoire.
Voilà.
C'est un symbole.
Et Staline. Tout le monde croyait que le communisme était là pour...
Le nombre de divisions.
Des siècles et des siècles.
Ah oui, c'est presque l'expression religieuse, c'est ça, c'est Staline. Oui. Ça. Alors, en juillet 2004, vous écriviez dans le Figaro, dans une chronique, « Être français aujourd'hui, c'est savoir parler, écrire et comprendre le français. Être français aujourd'hui, c'est être fidèle au passé pour mieux dominer un avenir qui sera tout autre chose. » Alors, pour que la France soit toujours la France, Jean d'Ormesson, être français, faut-il que l'on partage la même histoire ou faut-il que l'on partage d'abord les mêmes valeurs ? Est-ce que ça n'est pas une question clé de notre avenir ?
C'est très très difficile. Je crois que la France a toujours été une idée. Il y a des pays comme l'Allemagne où le pays, c'est le sol, c'est le sang, c'est l'histoire. Nous, c'est plutôt une idée. Je crois que c'est Malraux qui disait « La France n'est jamais autant la France que quand elle est la France pour les autres ».
Oui, mais ça, c'est formidable pour l'avenir, ça, si c'est vrai.
Oui, mais nous allons naturellement, vers quoi allons-nous ? Bon, c'est clair comme de l'eau roche. Nous allons vers une intégration
des... métissage généralisé, quoi.
Mais oui, bien sûr, c'est évident. Quand les Nations Unies niaient les races, il y a des races. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont égales. Et les races vont disparaître, mais elles ont existé. On pouvait très bien distinguer un noir d'un peau rouge et un chinois d'un breton. Vous savez, on les distinguait à l'œil nu. On ne distinguait pas un juif d'un autre, ça non, parce que ce n'est pas une race. Mais il y a eu des races. Ce qu'il y avait, c'est que les races étaient égales. Et ce qu'il y aura, c'est que les races vont disparaître. Elles vont disparaître. La fusion est commencée. Et elle va se poursuivre. Elle va se poursuivre avec des allers-retours, des chocs, des difficultés, des réactions, forcément.
Et alors, est-ce que ça veut dire...
C'est très dur, vous savez.
Est-ce que ça veut dire, Jean d'Ormesson, que notre travail à nous, occidentaux, porteurs d'une culture, ça n'est pas de défendre nos privilèges, ça n'est pas de défendre nos races, ça n'est pas de défendre notre histoire, c'est de faire en sorte que les valeurs que nous portons soient les valeurs de tout le monde dans les...
Mais oui,
c'est ça ?
Bien sûr, mais bien sûr. Je crois que c'est...
Accepter le métissage, porteur de nos valeurs.
Il faut tenir compte de ces gens qui disent quand même la France, c'est... J'étais contre le fait que l'Europe n'ait pas reconnu les racines chrétiennes de l'Europe. Elles existent. Les racines grecques sont très fortes. Les racines latines sont très fortes. L'influence du judaïsme est très forte. Ouais. Et la religion catholique a joué un rôle historique considérable, avec beaucoup d'excès souvent. Mais le nier me paraît tout à fait absurde. Mais que nous allions vers une espèce d'intégration, ça me paraît inévitable. Il n'y a qu'à regarder dans la rue, vous savez, il n'y a qu'à regarder les gens qui passent.
Oui, et ce n'est pas pour vous une évolution négative, c'est une évolution.
Mais vous savez, il vaut mieux changer ses idées et ses réactions que de changer l'ordre du monde. L'ordre du monde, il se fera de toute façon. L'évolution se fera. Tout passe. J'écrirai encore un livre là-dessus. Tout passe, tout change. Tout reste aussi toujours la même chose.
Est-ce qu'avec le temps, chez vous, le philosophe ne prend pas le pas sur le romancier ? C'est l'impression que j'ai, moi, depuis quelques années.
Vous savez, le roman, vous voyez bien qu'il y a une crise du roman. Il y a une crise du livre.
Votre fascination pour Borges...
Il annonce ça merveilleusement. Ouais. Il y a une crise du livre parce qu'il y a des nouveaux. Moi, je ne me sers pas, comme vous savez, d'ordinateur. Je n'ai pas de portable. Je ne tape pas à la machine. Mais je ne nie pas la révolution numérique. Elle est formidable. Donc, il y a un changement, c'est trop clair. Tout ça change, tout ça bouge. La langue aussi bouge. J'essaye de participer aux travaux de l'Académie qui essaye de garder la pureté de la langue, mais elle bouge, la langue.
Mais ce qui est étonnant, c'est de voir dans les one-man shows, par exemple, des garçons de 25 ans, je pense à Gaspard Proust, par exemple, qui jouent avec la langue française comme si Rabelais était là, quoi.
Oui, et alors, absolument. Et alors, le roman, vous acceptez très bien l'idée que le sonnet, ça a vieilli, que l'ode, ça a vieilli. Il ne vous viendrait pas l'idée d'écrire une tragédie classique. J'ai des amis qui écrivent des tragédies classiques qui sont très réussies et qui me disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne les publie pas ?» Mais on ne les publie pas parce que c'est terminé. Ouais. Et le roman, vous ne vous imaginez pas qu'il est éternel. Il y a déjà la crise du roman. Ce que nous cherchons, c'est la sortie.
Il a ressuscité parce qu'on a cru qu'il mourrait avec le nouveau roman, quelque part.
Le nouveau roman, le roman de l'absurde, le roman existentialiste, le surréalisme, ce sont les tentatives de sortie du roman. Et si j'ai fait modestement quelque chose, j'ai essayé de trouver des sorties du roman qui ne soient pas si désespérément chiantes que le nouveau roman. J'ai essayé de trouver des sorties du roman qui gardent quelque chose de l'excitation romanesque. C'est ça, au fond, ce que j'ai essayé de faire. Mais qu'il y ait une sortie du roman, bien sûr. Je pense que le roman va encore durer 100 ans, 200 ans, 300 ans. Je serais extrêmement surpris qu'il dure encore 500 ans.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Jean d'Ormesson, le plus grand échec de votre vie? Comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Alors évidemment, la question étant intimement personnelle, vous avez le droit d'utiliser un joker, comme on dit, si vous ne voulez pas répondre. Mais jusqu'à présent, tous les invités ont répondu. D'ailleurs, avec beaucoup d'authenticité.
En effet, j'utilisais un joker pour la vie sentimentale. Oui. Je n'en ai jamais parlé.
Je ne vous demandais pas de répondre sur ce plan.
Et je ne veux pas en parler, je n'en parlerai pas.
Quelquefois, je gênais que vous le fassiez.
Quelquefois même, je l'écris, mais je n'en parle pas. Mm-hmm. Un échec, j'aurais voulu écrire un livre qui soit quelque chose comme...
Je sens qu'on va le citer pour la première fois depuis trois quarts d'heure, comme un livre de Chateaubriand.
Évidemment, comme Les Mémoires de sa tombe, comme les essais de Montaigne. D'ailleurs, vous verrez qu'il n'y a pas de roman là-dedans. Comme s'il y en a un, mais est-ce que c'est un roman comme Proust, comme L'Iliade et l'Odyssée, enfin d'écrire un grand livre, quoi.
Ça, c'est quand même, ne m'obligez pas à...
évidemment raté.
Ne m'obligez pas à vous rendre un hommage qu'il serait délicat de rendre devant vous. Mais ce qui peut-être compense tout cela, c'est votre admiration profonde pour les grands.
Oui.
Il faut voir comment vous parlez d'Homère, par exemple.
Oui.
Personne ne connaît aujourd'hui quand vous parlez d'Homère.
C'est elle.
C'est extraordinaire, c'est presque pédi.
Jacqueline Romy en parlait merveilleusement.
Vous en parlez merveilleusement,
mais,
vous.
Mais vous savez, c'est tellement amusant. Vous savez, il faut lire Homère. Lisez, en livre de poche, vous trouvez l'Odyssée. C'est incroyable parce que c'est amusant. Et comme c'est bien construit. Et les idées qu'on se fait. On croit que l'Iliade, c'est l'histoire de la guerre de Troie. C'est l'histoire de quelques jours de la guerre de Troie. Ça va de la colère d'Achille. Et pourquoi est-ce qu'il est mécontent, Achille? Vous savez pourquoi il est mécontent?
Dites-nous.
Mais tout le monde peut vérifier que c'est vrai ce que je dis. Il est mécontent parce que le roi des rois, son patron, lui a fauché une fille.
Voilà.
Il lui a fauché Briseis.
Nous sommes dans l'éternité, là.
Mais oui, et il est très mécontent, et c'est l'histoire de la colère d'Achille, et ça va jusqu'à la mort d'Hector quelques jours après. Et l'Odyssée s'est construite de façon formidable. Ulysse n'apparaît pas du tout au début, c'est Télémaque qui apparaît. Télémaque s'est construit comme un film moderne. Télémaque part à la recherche des souvenirs de son père. Et ce n'est que quand l'œuvre est déjà largement entamée que Ulysse apparaît. Et c'est un amusant. Les femmes, Circé, Nausicaa, qui ressemble à un jeune palmier, elle est tellement belle. Non, c'est admirable. Et quand Hector part pour la guerre, alors tout le monde connaît Andromaque, parce que nous avons Racine. Mais on ne se rappelle pas toujours que Andromaque est la femme d'Hector. Et Hector part se battre avec Achille. Il va être tué, d'ailleurs. Et Andromaque et Hector ont un petit garçon de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, je ne sais plus, que Hector, partant pour la guerre, prend dans ses bras. Et vous savez, il a un chapeau à plumes, comme dans les films. Et les plumes font peur au petit garçon qui se met à pleurer. Et il le tend à sa mère, Andromaque. Et Homère dit, elle le reçut sur son sein avec un rire en larmes. C'est sublime, avec un rire en larmes. C'est le premier oxymore de la littérature, c'est-à-dire la rencontre de deux termes contradictoires. Un rire en larmes.
Alors, vous avez un sens de la formule que chacun connaît. Pour définir le destin de Napoléon, vous dites c'est un échec, mais éblouissant. Si, en deux mots, vous aviez à définir votre propre trajectoire,
Je dirais, il a fait ce qu'il a pu.
Et vous vous êtes beaucoup amusé aussi.
Je me suis beaucoup amusé. Oui, je me suis beaucoup amusé.
La vie peut vous remercier de l'amour que vous lui portez, quand même.
Oui, oui, bien sûr. Et vous savez, si on me disait, j'ai évidemment beaucoup aimé la vie a été d'une indulgence extrême à mon égard. Ce mois de novembre a été béni pour moi. La conversation va probablement être portée au théâtre.
Ah, oui.
Et j'ai réalisé un de mes rêves de toujours. Je suis acteur de cinéma.
Vous incarnez le président Mitterrand dans un film avec Catherine Froh.
Un rôle que devait jouer Claude Rich, que j'ai remplacé au pied levé. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et si on me disait, est-ce que tu veux recommencer?
Oui.
Eh bien, je refuserais. C'est une bénédiction de mourir. Vous savez, tout le monde le sait. C'est comme le travail. Vous trouvez que c'est drôle de travailler? Moi, je trouve pas ça drôle, je trouve ça très dur. Mais il y a pire que de travailler, c'est de ne pas avoir de travail. Eh bien, il y a pire que de mourir. Mourir, c'est pas gai, vous savez. Mais ne pas mourir, ce serait catastrophique. Et la preuve, c'est que quand Jésus veut punir quelqu'un, un juif qui lui a refusé un verre d'eau sur le chemin du calvaire, il le condamne à ne jamais mourir. C'est le juif errant, c'est la pire des punitions. Donc la vie est très belle et heureusement, elle finit.
Septième et dernière question de notre série L'Essentiel. Jean d'Ormesson, aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie?
Oh, j'ai très peur que ce soit très très égoïste.
Ah, vous avez d'ailleurs dit, enfin, vous avez une formule là-dessus étonnante, je suis un égoïste qui va vers les autres.
Oui, c'est ça.
C'est beau ça.
Oui, c'est vrai.
C'est beau.
Je pense que mon rêve, c'est d'écrire encore un livre. J'ose pas dire deux, parce que ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, encore un livre qui ne soit pas désolant.
C'est ça le rêve. Alors, si l'on revient sur l'aspect plaisir dans la vie, donc tout le monde sait que vous êtes promené dans la vie avec un bonheur, main dans les poches, dites-vous, mais toujours un crayon dans la poche aussi. Hein. Donc, amoureux, presque fusionnel de tout cela, les voyages en Méditerranée, les femmes, les amis, l'écriture. Mais il y a quand même une chose, c'est que on sent chez vous une sorte de peur de tout ce qui dépasse les commencements, comme si vous aviez profondément la peur d'être déçu par ce que vous découvrez. Oui. N'est-ce pas, au fond, cette peur même qui a rongé la vie de Don Juan?
Je dirais que je suis, je ne dirais pas un libertin, mais enfin, je suis... Que,
on peut le dire, on peut le dire.
Que je suis
au sens noble du terme,
18e. Un amateur de la vie, oui, nourri de l'Ecclésiaste. Tout ça n'est rien, tout ça passera. En tout cas, ce qui ne compte pour rien, c'est pas le devoir. Devoir, c'est quand même bien. Le plaisir, c'est bien. L'amour, c'est bien. Ce qui compte pour rien.
Toujours le rien, on revient à cette peur du rien chez vous.
C'est les honneurs, les postes, les fonctions, l'argent même. Vous savez, j'ai pas craché sur l'argent, mais je l'ai méprisé profondément. Je n'ai pas craché sur les honneurs, puisque je parle à Canal Académie. Mais je n'ai pas beaucoup d'estime pour les honneurs.
Ouais.
Pas beaucoup.
Toujours ce recul par rapport aux choses, quoi.
Ah oui, un grand recul. Oui, ouais. Un grand recul. Qu'est-ce que c'est que tout ça qui n'est pas éternel?
Vous nous disiez à l'instant que le travail, c'était quand même pas très drôle. Pourtant, moi, j'ai l'impression que, je me demande, si la principale source de bonheur pour vous, ce n'est pas, même pas l'amour, même pas l'amitié, mais d'abord et avant tout, aujourd'hui, s'entend, la réflexion et ce dialogue permanent avec le mystère. Ah, est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui?
Je suis devenu une machine à faire des livres.
Oh non, c'est pas vrai. Est-ce que ce n'est pas cela? C'est ce besoin que vous avez aujourd'hui.
Vous savez, il y a une formule.
Aristote le disait.
Il y a une formule de Léon Blois.
Le bonheur dans la sagesse, au fond.
Il y a une formule de Léon Blois, moi qui ai tellement aimé la vie, Vous savez, quand on me dit « qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie ?», j'avais une réponse que j'avais empruntée à Gaston Gallimard, dans l'ordre « les bains de mer, les femmes, les livres ». Eh bien, il faut corriger ça avec une réflexion de Léon Blois qui disait « il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être un saint ».
Ça, là, on a de la marge, là.
Il y a de la marge.
Vous auriez vraiment aimé être saint.
J'ai vécu dans cette marge.
Lorsqu'on regarde, par exemple, actuellement, les tableaux de Fra Angelico, on voit effectivement que la sainteté, car c'était son cas,
bien sûr,
amène à la...
Comment voulez-vous que nous ne soyons...
Au summum de la création artistique.
Comment voulez-vous que nous ne soyons pas dans une époque terrible de changements, de mutations, dont Michel Serres parle très bien. La mutation principale, c'est quand même que Darwin, Freud, Karl Marx et Nietzsche ont chanté la mort de Dieu. Eh bien, la mort de Dieu, ça ne peut pas ne pas apporter un grand trouble dans des esprits qui ont vécu de Dieu pendant 3000 ans.
Mais quand on regarde, comme actuellement on peut le faire à Paris, un tableau de Fra Angelico, on se dit quand même que le cadavre de Dieu bouge encore, comme disait Maurice Clavel.
Le cadavre de Dieu bouge encore.
Bouge encore.
Bien sûr.
Alors,
vous connaissez la formule que je mets tellement. Sur l'université américaine, en 68, un étudiant avait écrit « Dieu est mort, signé Nietzsche ». Et le lendemain, une main avait effacé l'inscription et avait écrit « Nietzsche est mort, signé Dieu
». Un jour, vous avez souri lorsque je vous avais dit que vous constituiez, à mes yeux, l'une des plus belles incarnations de la sprezzatura, que Balthazar Castiglione avait défini comme l'art, vous savez, de cacher avec élégance le travail et l'attention permanente aux autres et au monde. Mais au fond, est-ce que j'ai vraiment tort? Alors, pour le dire autrement, est-ce que vous n'êtes pas, quelque part, une sorte d'Oscar Wilde français, à qui la vie, quand même, aurait épargné tous les désagréments que Oscar Wilde a connus?
Dites-moi.
Moi, je me demande.
Ça, c'est un énorme...
Si l'écrivain dont vous êtes le plus proche, il n'est pas Oscar Wilde.
J'ai une admiration sans borne pour Oscar Wilde, sans borne, qui est un homme tellement drôle, tellement amusant, qui a tellement souffert aussi, qui a écrit des choses si belles. Et il disait, par exemple, nous sommes tous dans le caniveau, mais quelques-uns d'entre nous regardent les étoiles.
Bien, Jean d'Ormesson, merci de nous aider à regarder les étoiles. Ainsi s'achève cet essentiel dont l'invité était donc aujourd'hui Jean d'Ormesson. Merci. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci beaucoup.